Prologue. Il n'est jamais trop tard pour une enfance malheureuse. Il n'est jamais trop tard non plus pour une enfance heureuse. Mais votre enfance, c'est surtout une chose, du passé. Vous seul décidez de l'influence que votre passé doit ou non avoir sur votre présent. Joschka Breitner, l'enfant intérieur de vos désirs. En grimpant dans le coffre de son propre véhicule, le colosse russe avait presque des airs d'enfant effrayé.
« Et je verrai Dragan bientôt ?» me demanda Boris.
« Tu le verras bientôt, » le rassurai-je. En accord avec moi-même, je rabattis le couvercle du coffre, sans jugement et avec bienveillance. En pleine conscience, donc. Je m'installai au volant et démarrai le moteur. J'étais content de moi, même si j'avais menti. Boris ne reverrait jamais Dragan. Du moins pas dans cette vie, car cela faisait une semaine que Dragan était mort. Boris, quant à lui, ne mourrait pas. J'en avais assez de tuer. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Pour le russe, Sacha et moi avions pensé à une autre solution. Avec Boris dans le coffre, je quittais l'aire d'autoroute. À 3h30 du matin, les routes étaient quasiment vides. Nous roulâmes une quinzaine de minutes sous le couvert de l'agréable manteau de l'obscurité. Puis j'appelai Sacha. « On a de la compagnie ?» voulus-je savoir. Pour le vérifier, le Bulgare au physique sec et nerveux m'avait suivi à une courte distance.
« Non, y a personne, ils t'ont tous dépassé. »«
Tant mieux. » Je soufflais, soulagé.
« Plus de mort, alors ?»
demanda Sacha.
« Non, plus de mort. »
À son tour, Sacha poussa un soupir de soulagement. « On se retrouve à la maternelle comme convenu, » dis-je.
« La porte de la cave est ouverte, »
conclut Sacha. Je raccrochai. Chapitre 1. L'enfant intérieur. Notre âme est bâtie à la manière des poupées russes. Quand ça remue dans la poupée de notre âme d'adulte, le bruit qu'on entend n'est autre que celui de la poupée blessée de notre âme d'enfant cachée à l'intérieur. Joschka Breitner, l'enfant intérieur de vos désirs. Dans mon enfance, deux choses sont de toute évidence allées complètement de travers. Mon père et ma mère. C'est en tout cas ce que je découvris 40 ans plus tard, en m'intéressant pour la première fois à mon enfant intérieur, sous la pression de ma femme. Si je n'avais pas été sensibilisé aux problématiques psychologiques grâce à mes expériences fort positives en matière de pleine conscience, j'aurais sans doute considéré l'idée de l'enfant intérieur comme une connerie finie. Toutes les choses impossibles à dépister par un examen proctologique n'existant, comme je pensais alors, tout simplement pas. Il y a un an à peine, un livre portant sur l'enfant intérieur n'aurait donc été pour moi que de la littérature pour femmes enceintes. Un de ces bouquins dont un homme pouvait certes tirer tout un tas d'informations sur les processus biologiques à l'œuvre dans le corps de sa compagne, mais qui n'expliquait pas grand-chose sur sa vie intérieure à lui. Entre-temps, j'ai appris que la théorie psychologique de « l'enfant intérieur » n'a rien à voir avec la préparation à l'accouchement. De fait, ce qu'elle implique se joue complètement en dehors de l'utérus, pour les deux sexes. Selon cette théorie, nous sommes bâtis sur le plan émotionnel à la manière des poupées russes. Quand ça remue dans la poupée de notre âme d'adulte, le bruit qu'on entend n'est autre que celui de la poupée blessée de notre âme d'enfant cachée à l'intérieur. Ce n'est pas nous qui faisons obstacle à notre bonheur, c'est notre enfant intérieur, parce qu'il fait partie de nous, tout comme les blessures datant de notre enfance. Si nous voulons mettre fin au remue-ménage, c'est lui que nous devons guérir. Pour ma part, la confrontation avec mon enfant intérieur s'avéra être la méthode idéale pour éliminer les causes des problèmes dont j'atténuais quotidiennement les conséquences à l'aide de la pleine conscience. Quand j'étais petit, il n'y avait pas encore de Siri et d'Alexa. Les gens qui allumaient et éteignaient la lumière à la maison, faisaient fonctionner la chaîne IFI et répondaient faussement à chaque question, aussi bête qu'elle fût, s'appelaient maman et papa. S'il y avait donc quelqu'un qui avait raté quelque chose dans mon enfance, c'était ces deux-là. Ce qui était rassurant, dans la mesure où cette prise de conscience me permettait de rejeter tranquillement la faute sur eux, concernant mes problèmes conjugaux, ma peur de l'avenir, mon irritabilité en général, et plusieurs meurtres. Si je n'étais devenu le père de mon enfant intérieur qu'à 43 ans, c'était, entre autres, parce que je n'avais pas pris mes précautions lors d'une dispute avec ma femme, dont je vivais par ailleurs séparé. Katharina avait toujours eu une façon très efficace de régler ses problèmes. Leur résolution revenait irrémédiablement à celui sans qui elle ne les aurait pas. C'était donc à moi qu'il incombait de prévenir les querelles au sein de notre mariage finissant. Malheureusement, c'était exactement ce que j'avais omis de faire lors de nos dernières vacances d'été communes. Parce que je m'étais, contre son avis pourtant expressément formulé, pris la tête avec le serveur d'un chalet-restaurant dans les Alpes. Ce dont elle profita pour exiger que j'entreprenne enfin une thérapie à cause de mes incessantes sautes d'humeur. Sachant qu'à ce moment-là, elle ignorait encore qu'à la suite de notre altercation, et avec un peu d'aide de ma part, le serveur était malencontreusement mort. En mari et père responsable, je fixais depuis les Alpes un rendez-vous avec mon coach en pleine conscience pour la semaine suivante. Le fait que Katharina, sinon, serait rentrée sur le champ avec notre fille Émilie, n'avait pas été sans incidence non plus. Indépendamment des susceptibilités de ma femme, j'avais moi-même reconnu depuis longtemps la nécessité de faire un travail sur moi. Quelque chose dans mon fort intérieur m'empêchait régulièrement de profiter simplement de la vie. J'avais l'impression que, si les soucis étaient une matière liquide, les miens ne feraient, grâce à la pleine conscience, certes pas de grandes vagues dans la coupe de mon âme, mais que celle-ci était néanmoins toujours pleine à ras-bord. Et parfois, quand un souci superflu venait s'ajouter au reste, ça finissait quand même par déborder un peu, entraînant une crise de nerfs pour des choses que d'autres considéreraient comme des broutilles. Jusqu'ici, mes crises avaient été plutôt modestes. Je jetais des glaçons sur les tocards qui braillaient dans le parc en face de mon appartement. En tant qu'avocat, je conseillais volontairement mal les clients qui m'agaçaient. Je décidais sur un coup de tête d'apporter le repas aux prisonniers enfermés dans ma cave avec 2 heures de retard. Rien que des choses que tout un chacun ferait dans la même situation s'il était énervé, et tant qu'on ne l'y prenait pas. Toutefois, précipiter le serveur d'un chalet alpin dans un ravin atteignait un autre niveau. Je ne voulais pas de cette escalade. C'est ainsi qu'un soir pluvieux, début septembre, je me retrouvais une nouvelle fois devant la porte de Joschka Breitner. Une semaine après être rentré de vacances. 6 mois tout juste après la fin de mon entraînement à la pleine conscience. Avant de sonner, je restais quelques instants debout devant sa porte et rentrais en moi-même. Beaucoup de choses avaient changé ces derniers mois. À l'époque, c'était le printemps, l'été arrivait. À présent, c'était l'automne, l'hiver approchait. 6 mois plus tôt, j'avais quitté le cabinet de M. Breitner en plein jour, regonflé d'une nouvelle énergie. Fort de mon savoir tout neuf sur la vie en pleine conscience, je me coulais littéralement dans un monde florissant. Mais voilà que les marées de l'existence m'avaient ramené au point de départ. La nuit était tombée et les premières feuilles mortes crissaient sous mes pieds. Pourtant, ma vie aurait dû être parfaitement heureuse. Avec beaucoup d'amour et en pleine conscience, j'avais réussi à remanier mon environnement professionnel et personnel comme je l'avais toujours rêvé. J'avais échangé un poste fixe et oppressant dans un grand cabinet d'avocats contre une activité d'avocat libérale, stable et solide financièrement. Katharina et moi avions transformé l'impasse d'une routine conjugale sous tension en 2 parcours de vie parallèles de parents vivant séparés. Notre fille Émilie, un membre joyeux et positif du groupe des Nemo, profitait de la place en maternelle que j'avais obtenue pour elle de haute lutte. Le magnifique immeuble ancien où se trouvait son école abritait non seulement mon cabinet d'avocat, mais aussi mon appartement. Je m'occupais de la gestion du bâtiment dans son ensemble. Pour mon client principal, Dragan, le chef porté disparu d'un clan mafieux.